Professeur Bernard Simiti, bonjour.
Bonjour, bonne aventure.
Vous venez de publier un ouvrage intitulé Barthélemy Boganda, premier défenseur des droits humains en Oubangui-Chari, aux éditions L'Harmattan en mars 2021 à Paris en France. Quel est le message essentiel que vous voulez transmettre aux Centrafricains d'abord et au monde entier?
Ce livre vient de paraître, c'est le fruit d'une longue réflexion. J'ai fait de la recherche sur Barthélemy Boganda, mon axe d'investigation. J'avais déjà publié un premier ouvrage en 2011-2012 intitulé « De l'Oubangui-Chari à la République centrafricaine indépendante » où j'ai expliqué l'évolution vers l'indépendance de l'Oubangui-Chari, cette évolution qui a été conduite par feu président Barthélemy Boganda. Ce troisième ouvrage n'est que l'approfondissement de ce premier ouvrage publié en 2012. Le premier titre qui a été retenu, c'était « Liquider pour ses idéaux d'émancipation, de gestion participative et d'autonomie politique ». Avec l'éditeur, nous sommes convenus qu'il fallait plutôt retenir le titre de Boganda, premier défenseur des droits humains en Oubangui-Chari. Le message essentiel que je voudrais faire passer aux Centrafricains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Centrafricains se demandent encore comment Boganda est-il mort ? Boganda était-il effectivement dans cet avion qui a crashé le 29 mars 1959 ou bien était-il déporté comme certains compatriotes l'avancent? Et donc les Centrafricains se demandent exactement ce qui s'est passé. Et les Centrafricains se demandent également pourquoi en voulait-on à Boganda? Et qui lui en voulait? Il se veut une contribution, une piste de réflexion. Dans ce travail, Boganda luttait beaucoup contre l'injustice. Il luttait beaucoup contre l'esclavage, contre l'impunité. Boganda voulait que le Centrafricain ne vive pas, ou bien l'Oubangien à l'époque ne vive pas de la mendicité. Et il ne voudrait pas que l'Oubangien soit réduit en esclavage. Et bon, il ne voudrait pas aussi que les richesses du sol de l'Oubangui soient exploitées par des personnes venues d'ailleurs. Boganda voudrait que ce soit les Centrafricains qui puissent profiter des produits de leur sol. Boganda était exacerbé par l'injustice. Quand il était ordonné prêtre, il a dit « Devenir chrétien, c'est être frère de l'humanité et du monde entier ». Mais Boganda va déchanter très rapidement parce qu'il sera confronté à un racisme au sein même de sa communauté religieuse. Ce que Boganda n'a pas supporté, ce qui l'a amené d'ailleurs à rompre avec l'Église catholique et mener la lutte politique parce qu'il pensait que c'est par cette voie qu'il pouvait libérer ses frères oubangiens de l'injustice.
Le premier titre que vous avez proposé, « Liquider pour ses idéaux » et que l'éditeur de commun accord avec vous a souhaité que ça soit changé pour retenir Barthélemy Boganda seulement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce premier titre proposé pointe déjà un doigt accusateur vers un pays qui serait complice de l'assassinat de Barthélemy Boganda?
Cela peut être vu de cette manière, mais vous savez, c'est moi qui suis l'auteur de l'ouvrage. Hein. Ils ont leur ligne éditoriale. C'est par rapport donc à cette ligne d'édition parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait un titre trop long. Nous avons convenu de retenir ce titre-là d'ailleurs qui cadre très bien avec le contenu de cet ouvrage.
Le Centrafrique est confronté à de multiples problèmes qui minent la bonne marche de la société, les conflits armés et l'insécurité, la mauvaise gouvernance avec détournement des deniers publics, l'éducation de mauvaise qualité avec baisse de niveau général, etc. Pourquoi vous n'avez pas pensé traiter cette thématique pour vous focaliser seulement sur Barthélemy Boganda?
Ce n'est pas parce que j'ai mis le nom de Barthélemy Boganda sur la couverture que j'ai seulement traité de Barthélemy Boganda, non. J'ai adopté une démarche épistémologique. À l'intérieur de cet ouvrage, nous avons abordé tous ces aspects-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé et que Boganda combattait. L'injustice, l'expropriation des individus, les assassinats crapuleux, etc. Les incendies des villages, la personne humaine n'avait pas de valeur. L'Oubangien n'avait pas de valeur. Pour rien du tout, on donnait la mort à quelqu'un. Par exemple, un cuisinier qui travaillait chez son patron, le patron est revenu à midi, il lui a servi à manger. Puisqu'il a oublié de servir le café, il l'a battu jusqu'à la mort. Un serveur dans un bar qui est pourchassé parce qu'on a passé une commande, la commande est épuisée, eh bien, le colon n'est pas d'accord et il menaçait le garçon. Alors, le garçon est allé voir son patron pour dire que bon, il préfère aller à la maison se reposer parce qu'il est fatigué. Or, il voulait échapper donc aux menaces du client. Mais l'ayant vu hors de l'enceinte du bar, ce colon l'a poursuivi pour le battre jusqu'à mort. Il y a des cas d'assassinat à Bangui et en province qui sont rapportés quotidiennement à Boganda, ce que Boganda ne pouvait pas accepter. Aujourd'hui, la personne humaine n'a plus de valeur. L'insécurité dans l'arrière-pays, les groupes armés ôtent la vie aux gens, même si c'était un animal que vous élevez, parfois vous avez pitié de lui. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement ce que nous sommes en train de revivre aujourd'hui. Et parlons de l'éducation nationale. Boganda avait beaucoup mis l'accent sur l'éducation nationale. Parce que sans l'éducation nationale, on ne peut pas prétendre développer un pays. Les professions de foi de Boganda sont de véritables programmes politiques qui sont restés inexploités jusqu'au jour d'aujourd'hui. Boganda avait beaucoup mis l'accent sur l'école. Il s'était opposé d'ailleurs à l'application de la loi cadre. Parce que quand il y a eu la loi cadre en 1956, la loi cadre conduisait vers la décolonisation. Mais Boganda était le seul leader africain à déceler le piège que recelait donc cette loi cadre. C'est vrai, il militait pour l'indépendance. Mais quand De Gaulle a décidé que la loi cadre soit mise en place et que l'autonomie soit donnée aux colonies, Boganda a dit non. La loi cadre, oui, d'accord, mais il faut d'abord décoloniser avant d'appliquer les dispositions de la loi. C'est-à-dire qu'il faut former les fonctionnaires, former les cadres. Parce que l'indépendance voudrait dire le départ des colons. Alors, lorsque ces colons vont partir, s'il n'y a pas de cadres nationaux pour les remplacer dans les bureaux, on va faire comment? Ce ne sera pas de la décolonisation. Puisqu'il n'y a pas de gens pour les remplacer, eh bien, ces colons resteront en place, donc ce sera une décolonisation de façade. Malgré ces dispositions, les autres leaders africains ne l'ont pas compris. Et nous sommes allés à l'indépendance et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous traînons encore cet état-là. Après l'indépendance, certains colons sont obligés de rester. Le président Dacko, par exemple, était obligé de faire appel aux colons dans l'administration, dans les préfectures. Les préfets étaient à l'époque des colons parce que justement, il n'y avait pas de cadres nationaux. Etc. Donc aujourd'hui, le problème d'éducation nationale reste fondamental. Il faudrait que nos dirigeants sachent qu'il faut financer l'école. C'est à nous, d'abord centrafricains, de prendre notre système éducatif en charge si nous voulons vraiment un développement. L'Afrique a besoin des hommes qui peuvent réfléchir, monter des programmes pour aller chercher l'argent où il se cache. C'est de cette richesse-là dont l'Afrique a besoin pour se développer et non de l'argent en liquide, au nom des prêts qu'on continue à nous donner.
Certains historiens, chercheurs centrafricains contestent le fait que Barthélemy Boganda est décédé le 29 mars 1959 dans ce fameux accident d'avion. Ces mêmes sources attestent que les autorités centrafricaines ont peur de dire la vérité, faire des révélations sur les circonstances de la mort de Barthélemy Boganda, de peur que la métropole leur complique la vie jusqu'à la mort peut-être. Que dites-vous de cet avis?
Les recherches se poursuivent pour savoir exactement, il est mort dans un accident d'avion, mais ce que nous voulons savoir, c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a amené à faire ce travail, mais l'énigme subsiste toujours. Parce qu'il y a deux versions qui s'affrontent. La première version qui parle de la disparition de Boganda dans cet accident d'avion. Il y a quelques décennies de cela, des compatriotes ont mis en avant la thèse de sa déportation. Je n'infirme pas non plus ce que disent ces chercheurs. Tout de même, dans ce travail, les identités des présumés assassins de Boganda transparaissent. Donc Boganda avait une charge importante sur lui. Boganda n'avait pas peur. Plusieurs fois, il avait été mis en garde par ses amis. Une fois, à Paris, on lui a dit « Méfie-toi, on risque de te tuer parce que tu défends beaucoup tes frères. » Boganda a dit « Je ne serai pas le premier à être tué pour avoir combattu l'injustice. » À Brazzaville, certains de ses amis lui ont dit « Méfie-toi, les Blancs risquent de te tuer parce que tu défends beaucoup tes frères africains. » Boganda a dit « Je suis prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour sauver mes frères Zoubandis. » Donc Boganda savait que le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin du calvaire. Au bout, ce serait ce qu'il attendait. Les recherches se poursuivent et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, la vérité jaillira. Nous tenons quelque chose entre nos mains qui peut nous situer définitivement sur la mort de Boganda. C'est le mausolée qui se trouve à Bobangi, où Boganda est censé être inhumé. Boganda est devenu un patrimoine national. Il suffisait aux décideurs politiques de prendre le courage et de voir avec la famille Boganda s'il n'est pas possible d'ouvrir ce mausolée pour voir qui y repose. Est-ce que c'est Boganda ou c'est pas Boganda? Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore les parents de Boganda qui sont vivants. Il est possible de procéder à un test ADN pour savoir si effectivement c'est Boganda qui y repose. Et je crois que c'est en prenant ce courage politique que nous saurons la vérité sur la mort de Boganda.
Professeur Bernard Simiti, je vous remercie.